Amy Elliott, 18 septembre 2005. Journal. Tiens, tiens, tiens. Devinez qui est de retour. Nick Dune, le garçon de la fête de Brooklyn. Le baiser dans le nuage de sucre. Celui qui joue les filles de l'air. 8 mois, 2 semaines, quelques jours, pas un mot. Et tout à coup, il ressurgit, comme si tout cela était prévu depuis le début. En fait, il avait perdu mon numéro de téléphone. Il n'avait plus de batterie, alors il l'avait noté sur un post-it. Puis il avait fourré le post-it dans la poche de son jean et passé le jean à la machine, ce qui avait eu pour effet de transformer le dit post-it en un morceau de bouillie en forme de cyclone. Il avait essayé de le défroisser, mais il n'avait pu distinguer qu'un 3 et un 8, dit-il. Puis il a été surchargé de boulot, et soudain, on était en mars. Et c'était trop gênant d'essayer de me retrouver après tout ce temps, dit-il. Bien sûr, j'étais en colère. J'ai été en colère, mais je ne le suis plus. Laissez-moi planter le décor, dit-elle. Aujourd'hui, des bourrasques de septembre. Je me promène sur la 7e avenue, occupant ma pause déjeuner à contempler les stands d'alimentation hispanique sur le trottoir. Une suite interminable de seaux de cantaloupe, de melons jaunes et verts, posés sur un lit de glace comme la pêche du jour. Quand je sens un homme qui me colle, je le regarde du coin de l'œil et je réalise qui c'est. C'est lui. Le garçon dont j'ai rencontré un garçon. Sans modifier mon allure, je me suis tournée vers lui et lui ai dit « Petit A, je vous connais ?» Manipulateur provoquant. « Petit B. Oh, génial, je suis trop contente de te voir !» Avide, façon serpillière. « Petit C, va te faire foutre. Agressif, amer. Petit D, eh bien, on peut dire que tu aimes bien prendre ton temps, pas vrai, Nick ?» Léger, enjoué, décontracté. Réponse D. Et maintenant, nous sommes ensemble. 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 C'était aussi simple que ça. Intéressant le timing. Propice, si vous voulez. Et je veux. Hier soir, c'était la soirée de lancement du livre de mes parents. L'épatante Amy et le grand jour. Ouais. Rand et Mary Beth n'ont pas pu résister. Ils ont donné à l'homonyme de leur fille ce qu'ils ne peuvent donner à leur fille, un mari. Oui, pour le numéro 20, l'épatante Amy se marie. Youpi! Tout le monde s'en fout. Personne ne voulait que l'épatante Amy grandisse, moi la première. Laissez-lui ses chaussettes hautes et ses petits nœuds dans les cheveux et laissez-moi grandir. Dégagé du fardeau de mon alter ego littéraire, de ma meilleure moitié de papier, de celle que j'étais censée être. Mais Amy, c'est le gagne-pain des Elliott. Et elle nous a bien servi. Aussi, je suppose que je ne peux pas lui refuser son mariage idéal. Elle épouse ce bon vieil Andy Labille. Bien sûr, ils seront exactement comme mes parents. Happy. Néanmoins, c'était troublant, le tirage incroyablement réduit qu'avait commandé l'éditeur. Le premier tirage d'un nouveau numéro de l'épatante Amy était de 100 000 exemplaires dans les années 1970. À présent, 10 000. La soirée de lancement a été par conséquent sans éclat. Pas dans le ton. Comment organiser une fête pour un personnage de fiction qui a commencé dans la vie sous les traits d'une gamine précoce de 6 ans et est à l'heure actuelle une future mariée de 30 ans qui parle encore comme une enfant. « Flûte !» pensa Amy. « Mon cher fiancé est vraiment grincheux quand il n'a pas ce qu'il veut. » Cette citation est véridique. Tout le livre me donnait envie de donner un grand coup de poing en plein dans le stupide vagin bien propre d'Amy. Le livre est destiné au marché de la nostalgie, aux femmes qui ont grandi avec l'épatante Amy. Mais je ne vois pas bien qui pourrait réellement avoir envie de lire ça. Je l'ai lu, bien sûr. Je lui ai donné ma bénédiction, à 3 reprises. Rand et Mary Beth craignait que je ne prenne le mariage d'Amy pour une allusion blessante à ma condition de célibataire perpétuelle. Moi, en tout cas, je trouve que les femmes ne devraient pas se marier avant d'avoir 35 ans, a dit ma mère qui a épousé mon père à 23 ans. Mes parents ont toujours redouté que je ne prenne Amy trop à cœur. Ils me disent toujours de ne pas trop lire de choses dans Amy. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que, à chaque fois que je loupe un truc, Amy le réussit. Quand j'ai fini par arrêter le violon à l'âge de 12 ans, Amy s'est révélée un prodige dans l'épisode suivant. Flûte ! Le violon, c'est du boulot, mais travailler dur, c'est la seule façon de s'améliorer. Quand j'ai planté le championnat de tennis junior à l'âge de 16 ans pour aller passer un week-end à la plage avec des amis, Amy a redoublé d'intérêt pour ce sport. Flûte ! Je sais que c'est sympa de passer du temps avec ses copains et ses copines, mais je me décevrais et je décevrais tout le monde si je manquais le tournoi. Ça me rendait dingue. Mais une fois partie pour Harvard, tandis qu'Amy avait comme de juste choisi l'alma mater de mes parents, j'ai décidé que c'était bien trop ridicule de perdre du temps à réfléchir là-dessus. Que mes parents, deux psychologues pour enfants, aient précisément choisi cette forme publique d'agressivité cachée contre leur enfant, ce n'était pas seulement tordu, c'était stupide, bizarre et assez hilarant, à leur guise. La soirée de lancement du livre était aussi schizophrénique que le livre lui-même. Au Blue Night, derrière Union Square, l'un de ces salons sombres, avec des fauteuils bergères et des miroirs art déco qui sont censés vous donner l'impression d'être un jeune talent. Des martini jeans qui vacillent sur des plateaux offerts par des serveurs au sourire figé. Des journalistes avides au sourire narquois, la dalle en pente, en train de se rincer à l'œil avant de partir pour une soirée plus chic. Main dans la main, mes parents se mêlent aux invités. Leur histoire d'amour fait toujours partie de la légende que vend l'épatante Amy. Mari et femme dans une entreprise de création mutuelle depuis 30 ans. Âme sœur. Ils emploient vraiment ce terme pour se décrire, ce qui est assez logique, car je pense que c'est ce qu'ils sont. Je peux en témoigner, les ayant étudiés dans ma solitude d'enfant unique pendant de nombreuses années. Ils n'ont pas d'impatience l'un envers l'autre, pas de conflit larvé. Ils traversent la vie comme deux méduses jumelles. D'instinct, ils s'étalent et se contractent, remplissent leurs espaces respectifs de façon liquide. Avec eux, ça avait l'air facile, le truc des âmes sœurs. On dit que les enfants de familles éclatées en voient de toutes les couleurs, mais les enfants d'union bénie ont leurs propres défis à affronter. Bien sûr, je dois rester assise sur une banquette en velours dans un coin de la pièce, à l'écart du bruit, pour donner quelques interviews à une triste poignée de stagiaires à peine pubères qui se sont retrouvés coincés avec la lourde tâche de choper une citation par leur rédac-chef. Quel effet ça vous fait de voir Amy enfin mariée à Andy? Parce que vous n'êtes pas mariée, si? Question posée par Petit A, un gamin penaud aux yeux exorbités qui tient son carnet en équilibre sur sa sacoche. Petit B, une jeune créature trop habillée avec une coiffure soignée et des stilettos qui crient « Baisez-moi ». Petit C, une fan de rockabilly passionnée, couverte de tatouages, qui semble s'intéresser bien davantage à Amy qu'on ne serait en droit de s'y attendre de la part d'une fan de rockabilly couverte de tatouages. Petit D, les trois précédents. Réponse D. Moi. Oh, je suis enchantée pour Amy et Andy. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mes réponses à toutes les autres questions sans ordre particulier. Certains traits de caractère d'Amy s'inspirent de moi. D'autres ne sont que pure fiction. Je suis célibataire et contente de l'être en ce moment. Pas d'habile Andy dans ma vie. Non, je ne pense pas qu'Amy simplifie à outrance la dynamique masculin-féminin. Non, je ne dirais pas qu'Amy est datée. Je pense que la série est un classique. Oui, je suis célibataire. Pas d'habile Andy dans ma vie pour le moment. Pourquoi Amy est-elle épatante tandis qu'Andy est simplement habile? Eh bien, est-ce que vous ne connaissez pas un tas de femmes puissantes, fabuleuses, qui se rabattent sur des types ordinaires? Des Joe Abil, des Abil Andy? Non, je plaisante, n'écrivez pas ça. Oui, je suis célibataire. Oui, mes parents sont deux âmes sœurs, c'est indéniable. Oui, j'aimerais vivre ça un jour. Oui, célibataire, espèce d'enfoiré. Les mêmes questions, encore et encore, et moi obligée de faire semblant qu'elles sont stimulantes sur le plan intellectuel. Loué soit l'open bar. Puis, plus personne ne veut me parler. Déjà. Et l'attaché de presse fait comme si c'était une bonne chose. Maintenant, vous pouvez retourner à vos invités. Je me faufile parmi la petite assemblée où mes parents sont toujours en train de jouer les hôtes parfaits, le rouge aux joues. Rand dans son sourire de poisson préhistorique monstrueux, Mary Beth avec ses hochements de tête de poulet enjoués. Ils se tiennent la main, se font rire, prennent plaisir à être ensemble, sont enchantés l'un par l'autre, et je me dis « Putain, ce que je suis seule !» Je rentre chez moi et pleure un peu. J'ai 32 ans. Ce n'est pas vieux, surtout pas à New York. Mais concrètement, ça fait des années que je n'ai pas vraiment apprécié quelqu'un. Alors quelle est la probabilité que je rencontre quelqu'un que j'aime? Sans parler de quelqu'un que j'aime suffisamment pour l'épouser. J'en ai assez de ne pas savoir avec qui je serai, ou même si je serai avec quelqu'un. J'ai beaucoup d'amis mariés. Pas beaucoup d'amis heureusement mariés, mais beaucoup d'amis mariés. Les rares couples heureux sont comme mes parents. Mon célibat les plonge dans la perplexité. Une jolie fille comme moi, intelligente, gentille, une fille avec tellement de centres d'intérêt et de passion, un job sympa, une famille aimante. Ils froncent les sourcils et font semblant de réfléchir à des hommes à me présenter, mais nous savons tous qu'il ne reste personne, personne de bien. Et je sais qu'ils pensent secrètement que j'ai un problème, un vice caché, qui me rend impossible à satisfaire, insatisfaisante. Ceux qui ne sont pas à la colle avec leur âme sœur, ceux qui ont fait le choix de la raison, méprisent encore plus mon célibat. Il n'est pas difficile de trouver un époux, disent-ils. Aucune relation n'est parfaite, disent-ils. Eux qui se contentent de baises laborieuses et de flatulences nocturnes rituelles, qui se rabattent sur la télé en guise de conversation, qui croient que la capitulation maritale, oui chérie, ok chérie, est la même chose que l'harmonie. Il fait ce que tu lui dis, parce qu'il ne t'aime pas assez pour discuter, me dis-je. Tes exigences minables lui donnent simplement un sentiment de supériorité ou de ressentiment, et un jour, il va baiser sa jeune et jolie collègue qui n'exige rien de lui, et tu vas tomber des nues. Donnez-moi un homme avec un peu de combativité. Un homme qui met le holà quand je déraille, mais qui aime bien quand même ma façon de dérailler. Et cependant, ne me faites pas atterrir dans une de ces relations où on passe son temps à se bouffer le nez, où on déguise les insultes en blagues, où on se fait les gros yeux et où on se bagarre pour jouer devant les amis, espérant chacun les attirer de notre côté dans une dispute dont ils se fichent complètement. Ces affreuses relations, si seulement, ce mariage serait formidable, si seulement. Et on sent que la liste des « si seulement » est plus longue qu'ils ne le réalisent l'un et l'autre. Alors je sais que j'ai raison de ne pas me rabattre sur un choix raisonnable. Mais ce n'est pas pour cela que je me sens mieux quand mes amis se mettent en couple et que je reste à la maison le vendredi soir avec une bouteille de vin et me prépare un repas extravagant en me disant « c'est la perfection », comme si j'étais mon propre rancard. Ou quand je vais dans d'innombrables fêtes et de soirées bars, parfumées et pleines d'espoir, me promenant dans la pièce comme un dessert douteux. Je vais à des rencarts avec des hommes qui sont gentils, beaux gosses et intelligents, des hommes parfaits a priori, qui me donnent l'impression d'être dans un pays étranger quand j'essaie de m'expliquer, quand j'essaie de me faire connaître. Parce que n'est-ce pas le propos de toute relation ? Être connu par quelqu'un d'autre, être compris. Il me comprend, elle me comprend. N'est-ce pas là la formule magique ? Ainsi, vous supportez la soirée avec l'homme parfait a priori, le flux bègue des blagues mal comprises, les traits d'esprit lancés haut et manqués. Ou peut-être comprend-il que vous avez fait un trait d'esprit, mais ne sachant trop qu'en faire, il le tient dans sa main comme une mucosité conversationnelle qu'il essuiera plus tard. Vous passez encore une heure à essayer de vous trouver, de vous reconnaître, et vous buvez un peu trop, vous en faites un peu trop. Et vous retournez à votre lit froid en pensant « c'était sympa ». Et votre vie est une longue suite de soirées sympas. Puis vous tombez sur Nick Dune sur la 7e avenue, en achetant du cantaloupe en dé, et paf, vous êtes connu. Vous êtes reconnus, tous les deux. Pour vous deux, les mêmes choses exactement valent le coup d'être retenues. Rien qu'une olive, cela dit. Vous avez le même rythme. Clic. Vous vous connaissez, c'est tout. Tout à coup, vous voyez. Lire au lit. Et des gaufres le dimanche. Et rire d'un rien. Et sa bouche sur la vôtre. Et c'est tellement mieux que sympa. Que vous savez que vous ne pourrez jamais revenir à un truc sympa. Si vite que ça. Vous pensez « Oh, voici le reste de ma vie. Il est enfin arrivé. »